Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Mali, une nouvelle attaque au mortier contre un camp de la MINUSMA a fait un mort et 9 blessés à Tombouctou. Nouvelles interrogations au Nigeria sur la santé du président Muhammadu Buhari. En RDC, l'épiscopat demande que l'opposant Katumbi puisse rentrer librement au pays. Nous ferons le point sur la liberté de la presse en RDC, au Rwanda et au Burundi.
Nous avons observé un recul inquiétant de la liberté de la presse en RDC. Nous demandons aux autorités de respecter la liberté de la presse.
Et puis Donald Trump s'affiche optimiste après sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Washington. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, au Mali, une attaque à l'arme lourde contre un camp de l'ONU à Tombouctou a fait un mort. 6 obus de mortier sont tombés sur le camp de la MINUSMA. Le bilan provisoire est de 9 blessés parmi les casques bleus, dont 4 grièvement. La Côte d'Ivoire va envoyer pour la première fois un contingent au Mali. Cette unité combattante de 150 soldats rejoindra la force de l'ONU à Tombouctou. C'est ce qu'a annoncé le général Touré Sékou, chef d'état-major des armées. La Côte d'Ivoire avait déjà envoyé un peloton de transport à la MINUSMA, mais jamais d'unité combattante, a précisé le général. Au Niger, les 13 membres de la commission chargée d'enquêter sur le décès le 10 avril dernier d'un étudiant sur le campus universitaire de Niamey ont prêté serment aujourd'hui devant la cour d'appel. Cette commission est composée de 5 représentants des étudiants, 5 du gouvernement et 2 indépendants. À Niamey, les étudiants avaient lancé le 10 avril un important mouvement de protestation pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre, un étudiant était décédé dans des conditions restant à élucider. De nouvelles interrogations sur la santé du président nigérian Muhammadu Buhari ne s'est pas présenté aujourd'hui au Conseil des ministres pour la 3e fois consécutive. Cette absence relance une fois encore les inquiétudes sur son état de santé, malgré les déclarations rassurantes de son épouse, Jacques Aristide.
Aïcha Buhari écrit sur Twitter que son époux continue à remplir ses devoirs pendant toute cette période et que son état de santé n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Pourtant, le président de 74 ans ne s'est pas non plus rendu à la mosquée pour la prière hebdomadaire vendredi dernier, ni au mariage de l'un de ses petits-fils samedi. Le porte-parole du chef de l'État avait déjà assuré que Muhammadu Buhari travaillait depuis la maison et qu'il avait besoin de se reposer après son traitement en Angleterre, sans donner de précision sur la nature de sa maladie. Des membres de la société civile nigériane demandent au président de se mettre en congé, car pour eux, ses problèmes de santé ne lui permettent plus de diriger le pays. De nombreux hommes politiques de l'opposition et du parti du président se sont également inquiétés du blocage que pourrait causer son absence des affaires s'il ne délègue pas son pouvoir au vice-président comme le prévoit la Constitution. C'est justement son adjoint Yemi Osinbajo qui a siégé à la tête du conseil hebdomadaire ce mercredi, après avoir assuré l'intérim de la présidence pendant plus de 8 semaines lors du congé médical de Buhari à Londres.
Et puis toujours au Nigeria, selon 2 sources sécuritaires, Aboubakar Shekau, le chef du groupe islamiste Boko Haram, a été blessé et l'un de ses adjoints tué par un bombardement aérien dans le nord-est du pays. Ces informations n'ont pas été confirmées par l'armée nigériane. Les autorités ont déjà annoncé, au moins à 3 reprises, avoir tué Shekau dans le passé. En République démocratique du Congo, les évêques catholiques ont recommandé dans un rapport au président Joseph Kabila d'autoriser Moïse Katumbi à rentrer librement au pays. Arzuma Compaoré.
Ce rapport a été remis au président Kabila le 29 mars et l'AFP a obtenu une copie. La Conférence épiscopale nationale du Congo plaide dans ce document pour le retour de Moïse Katumbi, un homme libre en RDC, afin d'exercer ses droits civils et politiques. Par conséquent, la CENCO souhaite le retrait du mandat d'arrêt contre l'opposant en exil et candidat déclaré à la présidentielle. ancien allié du président Joseph Kabila, passé à l'opposition en septembre dernier. M. Katumbi a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un citoyen grec. Il attend, par ailleurs, de comparaître devant la justice pour une affaire de recrutement de mercenaires. L'épiscopat estime que les actes et pièces pour lesquels Katumbi est mis en cause sont fabriqués et qu'il s'agit plutôt d'un règlement de compte purement politique.
Côte d'Ivoire toujours, les autorités ont lancé aujourd'hui à Abidjan une grande opération de destruction d'un marché vendant de faux médicaments. Quelques 150 policiers et gendarmes ont pris d'assaut au petit matin le quartier Roxy du grand marché d'Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, détruisant les échoppes en tôle pour en extraire de nombreux cartons de faux médicaments. Conflit en Libye, après leur rencontre à Abu Dhabi, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale, et le maréchal Khalifa Haftar, chef des forces armées et des autorités parallèles, ont convenu d'œuvrer à un règlement de la crise, mais sans annoncer de mesures concrètes. Dans 2 communiqués distincts, les 2 hommes ont souligné la nécessité de régler la crise économique et politique et d'unifier les efforts pour lutter contre le terrorisme et mettre fin aux souffrances des Libyens. Au Soudan du Sud, les juges ont entamé une grève pour demander une hausse de salaire et la démission du président de la Cour suprême. Les discussions entre les juges et le gouvernement du président Salva Kiir ont échoué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, Donald Trump a affiché aujourd'hui son optimisme sur la possibilité d'aboutir à un accord de paix au Proche-Orient en recevant pour la première fois le président palestinien Mahmoud Abbas à la Maison-Blanche. « Nous voulons créer la paix entre Israël et les Palestiniens », a lancé le président américain, tout en restant très évasif sur la façon dont il entendait procéder pour régler l'un des plus vieux conflits du monde sur lequel tous ses prédécesseurs ont échoué. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Recevant pour la première fois le leader palestinien à Washington, le président Trump a exprimé sa volonté d'aider les Israéliens et les Palestiniens à parvenir à la paix. Le chef de l'exécutif américain a réitéré son attachement à une solution à 2 États. Pour y parvenir, il s'est proposé d'être un médiateur, un arbitre ou un facilitateur d'un processus qui mènerait à la paix.
We want to create peace. Between Israel and the Palestinians.
Nous voulons créer la paix entre Israël et les Palestiniens, a-t-il déclaré, ajoutant, il ne peut y avoir de paix durable si les dirigeants palestiniens ne condamnent pas à l'unisson les appels à la violence et la haine. Le président Trump n'a pas donné de détails sur la démarche qu'il compte adopter pour parvenir à la paix. S'exprimant par le biais d'un interprète, le président palestinien Mahmoud Abbas a, de son côté, déclaré que les Palestiniens sont engagés pour un accord de paix qui créerait 2 États séparés sur la base des frontières de 1967.
La journée a été particulièrement chargée pour la diplomatie américaine. En déplacement au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire d'État Rex Tillerson a lui prévenu que les États-Unis préparaient, si nécessaire, de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Faire cesser les programmes militaires, nucléaires et balistiques interdits de Pyongyang est devenu une priorité du président Donald Trump. Il espère que la Chine va user de son levier économique unique pour faire plier son allié communiste. En Afghanistan, un attentat revendiqué par le groupe État islamique a frappé aujourd'hui un convoi blindé de l'OTAN dans le centre de Kaboul, faisant au moins 8 morts et 28 blessés, dont 3 soldats étrangers. Anastasie Tudiech.
Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat via son agence de propagande Hamak. Selon des témoins, les militaires étrangers circulaient à bord de véhicules blindés conçus pour résister à de fortes explosions. Cette attaque intervient quelques jours après l'annonce par les talibans du lancement de leur offensive du printemps. Ils ont de plus menacé de s'en prendre aux troupes étrangères. Pour l'expert afghan Ahmad Mouradi, que l'attaque ait été menée par le groupe État islamique ou par les talibans, le résultat est le même. Cela épuise le gouvernement et les forces de sécurité. Les États-Unis, qui ont chassé les talibans en 2001, sont depuis engagés dans une longue guerre contre les djihadistes en Afghanistan.
Retour sur les négociations autour du conflit syrien. La Russie, proche du régime de Bachar el-Assad, et la Turquie, soutien des rebelles, se sont prononcées en faveur de la création de zones de désescalade destinées à pacifier le pays et à renforcer le cessez-le-feu. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Vladimir Poutine. Et puis la tension monte au Venezuela. Les opposants au président Nicolas Maduro se préparent à une méga manifestation contre son projet de nouvelle constitution, dénonçant une manœuvre pour repousser les élections et s'accrocher au pouvoir. Depuis plus d'un mois, ils sont des milliers à manifester presque chaque jour pour exiger des élections anticipées afin de faire partir le président Maduro avant la fin de son mandat en décembre 2018. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Abdourahmane Dia.
Total fait son entrée dans le marché de la prospection pétrolière au Sénégal. Dakar et le groupe pétrolier français ont signé deux accords portant sur la concession de deux blocs d'exploration au large de Dakar. Kosmos Energy, une compagnie américaine qui bénéficie déjà d'une concession sur les côtes sénégalaises, a annoncé la découverte à la frontière maritime du Sénégal et de la Mauritanie de gisements de gaz naturel d'une capacité estimée à 140 milliards de mètres cubes. L'exploitation devrait commencer dans 3 ou 4 ans. Ouverture aujourd'hui à Durban, en Afrique du Sud, du Forum économique mondial pour l'Afrique. Et à cette occasion, l'organisation African Media Agency annoncera ses personnalités 2017 dans la catégorie business et entrepreneuriat. 76 personnes basées en Afrique ou dans la diaspora seront honorées pour la réussite de leurs entreprises, leurs réflexions innovantes et leur engagement dans la promotion de la diversité et l'inclusion. Un rapport publié par le groupe de réflexion basé à Washington, Global Financial Integrity, révèle que les flux de capitaux illicites dans les économies en développement sont passés de 2 000 milliards à 3 500 milliards de dollars en 2014. Selon le document rendu public à la veille du Forum économique mondial sur l'Afrique à Durban, le continent africain représente la région la plus vulnérable aux mouvements illégaux de capitaux.
Et vous avez reconnu notre générique, c'est la page sport, présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Et bien sûr, on ouvre avec du foot et la demi-finale de la Ligue des Champions. Monaco souffre face à la Juventus.
Oui, 1-0 déjà à la mi-temps pour les Turinois. Pourtant, le match se joue à Monaco, but de Gonzalo Higuain. La seconde partie s'annonce donc décisive pour les Monégasques qui devront réagir s'ils veulent préserver leur chance de se qualifier au match retour.
Première demi-finale en Ligue des Champions hier, le Real a remporté le derby madrilène.
Oui, 3-0, 3 buts de Cristiano Ronaldo. L'Atlético n'a pas résisté au merengue au Santiago Bernabéu. Le match retour est attendu le 10 mai à l'antique Vicente Calderón.
Ligue Europa, l'Ajax recevait l'Olympique Lyonnais.
Oui, c'était cet après-midi avec un score sans appel de 4-1 pour le club de la capitale néerlandaise qui prend là une option très sérieuse avant le match retour en France. Le Burkinabé Bertrand Traoré, auteur de ce soir d'un doublé, a ouvert le score dès la 25e minute. Lyon n'a jamais battu l'Ajax en Coupe d'Europe. Pour nos confrères de l'équipe en ligne ce soir, ils écrivent: il faudra un immense miracle au retour à Lyon.
Remise des records à zéro en athlétisme, une injustice pour Powell, recordman de la longueur.
Oui, le détenteur du record du monde du saut en longueur, Michael Powell, scandalisé par la proposition de la Fédération européenne d'athlétisme de remettre à zéro tous les records d'Europe, voire du monde, avant 2005, juge mercredi qu'il s'agit là d'une injustice. La proposition de l'AEA doit encore être approuvée par la Fédération internationale en août prochain. Pour l'Américain âgé de 53 ans, c'est une injustice et une gifle. L'objectif de la proposition de l'AEA est d'avoir sur les tablettes des performances moins sujettes aux doutes quant à un éventuel dopage, selon le document de travail de l'AEA publié lundi.
Enfin, en NBA, quelques résultats d'hier soir.
Oui, en demi-finale de la conférence Est, défaite hier de Washington, 119-129 face à Boston, les Celtics donc, qui mènent 2-0 la série de 7. Dans la conférence Ouest, victoire des Golden State Warriors, 106-94 contre Utah. Golden State, bien sûr, domine la série 1-0. Un score, cette défaite qui ne plaît pas du tout à Lionel ce soir.
Merci beaucoup, Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Et nous démarrons avec la suite de notre série de reportages sur la situation humanitaire autour du lac Tchad. Et nous parlons des déplacés tchadiens qui ont fui les attaques de Boko Haram dans les îles. Beaucoup ont trouvé refuge autour de Bagassola. C'est là que s'est rendu Nicolas Pineau, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad. Écoutons son reportage.
Assis sur des nattes, posés sur le sable brûlant, ces déplacés tchadiens attendent. Attendre, c'est leur activité principale dans ce camp situé à quelques kilomètres à la sortie de Bagassola. Attendre l'aide alimentaire distribuée une fois par mois ou attendre l'ouverture du centre de santé. Ces tchadiens sont chez eux, mais comme 120 000 déplacés autour du lac Tchad, ils ont fui les atrocités de Boko Haram il y a 2 ans déjà. Idriss Adam est un colosse de 40 ans. Il a quitté son village de Boularigui.
Boko Haram a attaqué le village et a mis le feu aux maisons. On est parti parce qu'ils ont égorgé plus d'une dizaine de personnes. Moi, j'ai perdu mon plus jeune frère. On s'est sauvé à travers les îles du lac.
Dans le camp voisin de Darnaïm, Saleh Youssouf a une histoire à peu près similaire. Ce berger nomade est revenu au Tchad après 30 ans d'absence. Il avait fui la DDS de Hissène Avré dans la région du Bata dans les années 90. Après avoir erré entre le Nigeria, le Niger et le Cameroun, Saleh Youssouf a dû rentrer au pays après avoir croisé la route de Boko Haram.
Boko Haram a bloqué notre passage et nous a dit, si vous passez, on vous tue. J'avais des chameaux, des chèvres, des bœufs, etc. Boko Haram est venu et m'a dit, si tu veux vivre normalement, viens avec nous. Sinon, tu dois tout abandonner et partir. C'est ce que j'ai fait, j'ai fui.
Ces Tchadiens et leurs familles, qu'ils soient déplacés ou retournés, n'espèrent pas forcément rentrer chez eux. Loin de tout service public et de la protection de l'État face aux djihadistes, ils ont trouvé dans les camps un semblant de normalité, notamment la sécurité et l'accès à l'école pour les plus jeunes. Écoutons Dimouya Swapébé, il est le préfet du département de Kaya.
Nous ne sommes pas très sûrs que tout le monde sera demandé à repartir parce que la présence de l'État faisait problème. Il y avait des difficultés dans l'accessibilité dans différents coins des îles du lac Tchad. Donc à ceux-là, nous avons l'intention de leur aménager leur site de déplacer là pour leur nouveau village. Et nous allons toujours appeler la communauté humanitaire à les appuyer là pour que ça soit leur nouvelle maison, leur nouveau village.
Les derniers combattants de Boko Haram sont retranchés dans les îles du lac Tchad ou l'État de Borno. Leur défaite probable prendra encore des mois, mais les déplacés de Bagassola ne souhaitent pas retourner dans leur village et vivre une nouvelle incertitude. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pineau, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les réfugiés rwandais installés au Congo-Brazzaville ne bénéficieront plus de ce statut dès le 31 décembre 2017. Les gouvernements du Congo et du Rwanda, en partenariat avec le HCR, travaillent sur cette échéance. Mais dans la communauté des réfugiés rwandais, souligne notre correspondante Gwelan Goussou, la majorité des réfugiés ne veut pas de cette mesure qui les incite à rentrer et déplore qu'on continue de commémorer l'anniversaire du génocide des Tutsis et pas celui, dit l'un d'eux, des Hutus.
Vous êtes sans ignorer, vous êtes actuellement en train de célébrer le génocide pour la 23e fois. Et c'est le génocide des Tutsis. À quel moment est-ce qu'on va célébrer le génocide des Hutus? Et donc les réfugiés ont peur d'aller dans un pays où ils n'ont pas le droit.
Ces propos d'un jeune réfugié rwandais résument l'angoisse et les dépits qu'ils suscitent au niveau des réfugiés rwandais le fait d'entendre qu'ils perdraient à partir du 31 décembre 2017 leur statut. l'UICR l'a confirmé et y travaille même déjà. Mohamed Nafian est le chef de bureau du UICR à Bétou, au nord du Congo, où on compte quelques 1979 réfugiés rwandais.
Cette année surtout, nous sommes très sûrs qu'il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugiés, soit le rapatriement que les HCR pourraient faciliter.
À Brazzaville, les réfugiés vivent cela comme un harcèlement. L'étudiant Patrick Mataboro n'en veut même pas en entendre parler.
Vous voyez que les réfugiés se trouvent dans des situations inconfortables à cause de ce qui se trouvait, de ce que le Rwanda est en train de faire. Donc, qu'il affiche la paix aux réfugiés rwandais, qu'il laisse les réfugiés rwandais vivre en beauté, dans leur sécurité. Donc, c'est ça ce qu'on demande.
Marie-Claire Nyiramahoro revient sur le calvaire vécu pendant la fuite du génocide en 1996.
Nous avons peur de retourner chez nous parce que le pays que nous avons fui n'a toujours pas organisé de dialogue. Pendant notre fuite, nous avons vu dans les forêts de RDC comment les réfugiés rwandais, les Hutus en majorité, ont été pourchassés et massacrés par le FPR. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, ceux-là qui nous ont tués nous demandent aujourd'hui de rentrer au pays.
Luamba Moke, président de la DUC, une ONG locale, appelle le Congo et le Rwanda à abandonner ce projet. Dépassé un mois, dit-il, il saisira la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
À la fin de l'année 2017 et au début de 2018, que ce soit effectivement des personnes qui vont devenir des migrants clandestins et en leur qualité de migrants clandestins, ils vont être expulsés. Voilà, nous craignons cela. Et en ce moment, nous allons saisir la Commission africaine des peuples pour que la Commission puisse prendre autorité sur cette question-là.
Docteur Eric Ndayishimier, un autre réfugié rwandais, refute ce qui s'est dit dans les rues de Brazzaville, que les réfugiés rwandais se sont enrichis ici et ne veulent plus rentrer chez eux.
Même ceux qui ont ces moyens-là ne veulent pas rentrer. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cartes pour déposer cet argent en banque. On dit vos cartes ne sont pas acceptées. Pensez-vous que nous sommes vraiment... cette situation nous plaît? Non, pas du tout.
En tout cas, les jours s'égrènent, les deux gouvernements et le UICR ont en main leur agenda. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, de graves menaces pèsent sur les droits fonciers des autochtones et communautés locales. C'est ce qui inquiète l'ONG camerounaise, le Centre pour l'environnement et le développement. Sur le terrain, de nombreux villages au Cameroun, situés en périphérie urbaine ou proches des grands projets d'investissement, sont de plus en plus sans terre. Et déjà, la colère des populations rurales monte. Comme dans le village Meyo, où va passer l'autoroute qui desservira l'aéroport international de Yaoundé. De reportage depuis le Cameroun de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
C'est mon père qui avait cédé ce terrain gratuitement pour qu'on vienne construire cette école, comme le centre de santé qui est en face, qui sera aussi détruit. Vous vous rendez compte?
Le jeune chef du village, Meyo, ne décolère pas au vu des inscriptions sur les murs de l'école publique du village et du centre de santé qui annonce une opération imminente de démolition des bâtiments. C'est que ici, l'un des sept échangeurs et certaines voies de contournement de l'autoroute traversent ce village situé en périphérie urbaine de Yaoundé. Le chef de village lui-même n'a pas été épargné par le tracé de l'autoroute sur ses propres terres.
Ma maison est en plein dans l'échangeur. Lorsqu'il faut maintenant faire l'expertise, on ne va pas tenir compte que c'est une chefferie. La chefferie, lorsqu'elle est à déplacer, vous comprenez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont déplacées au niveau du village.
À moins d'un kilomètre du village, l'on aperçoit des engins en train de dévaster la forêt sous le chantier de l'autoroute en direction du village Meyo. Depuis lors, la vie a perdu son cours normal ici.
Ici, au village Moyou, toute activité s'est arrêtée. Si vous perdez un membre de la famille, là où l'étudiant dans le public est passé, vous ne pouvez plus enterrer de corps, vous ne pouvez plus vivre, ni planter quoi que ce soit. Le peuple est asphyxié. Comment est-ce qu'il nous a fait des problèmes fonciers au Cameroun?
Dans plusieurs localités du Cameroun, de nombreux conflits sont nés autour du droit foncier des autochtones et communautés locales, ce qui justifie le lancement de la campagne dénommée Global Call Action. Elle sensibilise sur les enjeux du droit foncier communautaire. Le sujet est très préoccupant au Cameroun. Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, qui a présenté la campagne sous le thème « Atlas des colères et résistances communautaires en Afrique ».
Au Cameroun, dans la périphérie urbaine, où on a des communautés rurales qui se trouvent envahies par la ville, et là, la gestion des terres et des ressources pose problème, parce qu'on a là la superposition de deux modes de gestion des terres. L'un qui est un mode traditionnel, où le droit coutumier est le droit qui s'applique, mais l'autre, c'est la terre avec les papiers qui interviennent. Un autre endroit où on trouve des conflits, c'est des endroits où on a une multitude d'investisseurs. Et dans notre pays, c'est le cas de Kribi.
Au Cameroun, justement, la plupart des experts en droit foncier entrevoient d'ici peu d'éventuels conflits entre les autochtones et les grands investisseurs sur les terres rurales. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Donangmaï et ses invités.
C'est aujourd'hui la journée mondiale pour la liberté de la presse. Dans plusieurs pays africains, la presse est souvent menacée par le pouvoir en place. Beaucoup de médias sont fermés, des journalistes emprisonnés, obligés de partir en exil s'ils ne sont pas tués. Pour un état des lieux en République démocratique du Congo, Solange Nyamulisa a joint Evie Franck, chercheur à Amnesty International.
Nous avons observé un recul inquiétant de la liberté de la presse en RDC. Nous avons documenté plusieurs cas de journalistes qui ont été arrêtés arbitrairement, dans certains cas même tabassés, humiliés. Une situation qui nous inquiète, surtout aussi que nous avons vu beaucoup de coupures d'Internet sur des moments clés. De plus en plus de maisons de médias ont été fermées, notamment le signal de Radio France Internationale, maintenant coupé depuis novembre 2016.
Qu'est-ce que vous demandez aux autorités de la RDC?
Nous demandons de réouvrir ces médias qui restent fermés arbitrairement. Notamment, le gouvernement a pris l'engagement de réouvrir ces médias en application de l'accord politique qui a été signé le 31 décembre, mais jusqu'aujourd'hui, ces médias restent fermés, et aussi de respecter le travail des journalistes.
La RDC est placée 154e sur 180 selon le classement des Reporters sans frontières. Qu'est-ce qui explique ces reculs?
Ce recul inquiétant, c'est la plus mauvaise score pour la RDC depuis 2002. Ce recul arrive dans un contexte de crise politique et sécuritaire. Pour nous, il s'agit vraiment d'une tendance pour garder la population dans l'ignorance. Nous demandons aux autorités de reverser cette tendance et de respecter la liberté de la presse.
Et Rachel Nicholson s'exprime sur les situations rwandaises et burundaises.
Pour commencer par le Rwanda, ces années, nous avons remarqué moins de violations de la liberté de la presse, mais cela ne démontre pas qu'il y a une vraie liberté de la presse au Rwanda. Le nombre de journalistes critiques qui ont fui le pays, mais aussi par autocensure, par exemple, au cas de Jean-Léonard Kouchambagé, qui a été tué en 2010, deux mois avant les élections. Nous attendons toujours la justice pour ce crime.
Et qu'en est-il du Burundi?
Pour le cas de Burundi, ça reste toujours très grave. Les trois radios privées qui ont été fermées au début de la crise sont restent toujours fermées. Il y en a une qui est réouverte, mais pas toujours très libre dans le travail et qui subissent toujours des convocations par le service de renseignement national. La disparition du journaliste Jean Bigirimana en juillet 2016. Nous n'avons donc pas de rapport de ce qui s'est passé. Donc, globalement, c'est une situation très grave pour les journalistes au Burundi, et pas seulement pour les journalistes burundais, mais aussi pour les journalistes étrangers. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir des visas.
C'était Rachel Nicholson, chercheur à Amnesty International. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci à Lionel Gaïma et Calvin Fowler pour cette édition. Claire Morin-Gibourg au micro. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.